jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio. Ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce, quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio. Tout juste un peu de bruit pour combler le silence. Tout juste.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Il fait jour, bien sûr, avec ce changement d'heure, on ne sait jamais quand c'est la pleine lune. Mais si, bien sûr, c'est le mercredi à 18h30 sur 93.8 MHz. On de femme Radio Zone, heure d'été, heure d'hiver. La pleine lune toujours dans vos oreilles. Je vous rappelle notre numéro de téléphone, le 50 40 51 41 023, depuis Genève. Viviane au micro, Marjolaine à la technique, tout excité. Dans quelques instants, nos nouvelles. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, nos nouvelles. Torturée, Barbara Kistler est jugée ces jours à Istanbul. Le procès de la jeune Zurichoise reprend aujourd'hui au mépris des droits élémentaires. Elle est accusée d'appui au parti maoïste turc. 23 ans de prison ou la liberté. Tout est possible pour Barbara Kistler, une Zurichoise de 36 ans, arrêtée le 19 mai dernier à Istanbul et dont le procès reprend aujourd'hui devant la Cour de sûreté de l'État après une première journée d'audience à mi-septembre dernier. Dans sa prison pendant deux jours, la ressortissante suisse a été sévèrement torturée par les policiers turcs, électrochoc dans les organes génitaux sur la poitrine, suspension à la une solive du plafond, aspersion d'eau glacée, des coups dans la nuque dont son avocat suisse déclare avoir constaté l'extrême violence. Barbara Kistler a été arrêtée avec une poignée de Turcs soupçonnés d'appartenir au parti marxiste-léniniste. Les charges qui pèsent sur Barbara Kistler sont imprécises et ses avocats n'ont pas eu accès au dossier. On sait seulement pour l'heure qu'elle est inculpée d'appartenance à une organisation illégale au terme de la nouvelle loi antiterroriste turque, ce qui peut lui valoir 25 ans de détention. L'acte d'accusation mentionne encore la découverte d'armes, d'explosifs et d'un émetteur clandestin dans la maison où Barbara résidait au moment de son arrestation. Si les charges sont invérifiables, les violations des droits de l'homme sont en revanche très claires dans ce dossier. Les autorités turques ont tout fait pour différer la rencontre de Barbara avec ses avocats. Le consulat suisse n'a pas été immédiatement averti de son arrestation et il a fallu plusieurs semaines pour que Barbara, au prix d'une grève de la faim, puisse dénoncer les importants sévices corporels qu'elle a subis. Barbara, en Suisse, est connue officiellement pour être inscrite au Comité contre l'isolement carcéral, une organisation que Berne a fortement soupçonnée de travailler en relation avec des groupes terroristes. Une accusation qui a valu à Barbara une procédure fédérale d'enquête pour détention de matériel explosif et, bien entendu, un fichage. Les autorités suisses ont-elles transmis certains documents à la police turque ? Flavio Cotti ne l'a pas exclu en précisant que les deux pays travaillaient par le biais d'Interpol sur l'affaire. Une attitude inacceptable, protestent les amis politiques de Barbara. Les domestiques asiatiques sont maltraités au Koweït. Un écrivain koweïtien vient de s'élever contre les sévices et mauvais traitements que ses compatriotes font subir à leurs travailleurs, surtout travailleuses étrangères. Pour les employeurs koweïtiens, les domestiques sont des esclaves qu'ils peuvent acheter avec leur argent pour les martyriser, s'indignait l'écrivain koweïtien Khaled El-Rached. L'écrivain a raconté cette semaine l'histoire d'une servante sri-lankaise qui s'était réfugiée chez lui pour éviter les sévices exercés sur elle par ses employeurs koweïtiens. La jeune fille était dans un état lamentable, son corps était couvert de blessures et de lésions provoquées par la torture qui lui était infligée systématiquement par ses geôliers inhumains, a poursuivi l'écrivain. Il a dénoncé les agissements esclavagistes toujours pratiqués par ses compatriotes dont l'attitude n'a pas changé même après la crise du Golfe. L'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka et les Philippines fournissent le plus gros contingent de domestiques aux pays du Golfe, avec près d'un million de jeunes filles qui assurent à ces pays d'importantes rentrées de devises. Selon des agents de recrutement, une grande partie des travailleurs... Excusez-moi. Des travailleurs et travailleuses asiatiques dans le Golfe vivent dans des conditions infernales, horaires indéfinis, bas salaires, sévices et parfois violences sexuelles.
Tout à fait.
En France, après les infirmières, ce sont les assistantes sociales dans la rue. Plusieurs milliers d'assistantes sociales ont manifesté à Paris pour obtenir la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles et des meilleurs salaires. Après deux semaines de grève, les assistantes sociales de la région parisienne, rassemblées avec d'autres collègues de la province, se sont donc rassemblées près du Châtelet pour demander la reconnaissance de leur diplôme, équivalent aujourd'hui à un bac plus 2, et la revalorisation de leur salaire. Elles gagnent un peu moins de 6 000 francs en début de carrière et davantage de moyens mis à leur disposition. Vendredi, leur troisième manifestation, qui rassemblait plus de 200 d'entre elles, a failli mal tourner. Une des responsables du CASIF, le collectif qui représente les différentes tendances au sein du mouvement, a été interpellée par la police. Les assistantes sociales ont alors bloqué la circulation dans la rue de Rivoli jusqu'à ce que cette responsable soit relâchée. Grève, manifestation, rencontre avec les conseillers techniques de plusieurs ministères. Jusqu'à présent, les assistantes sociales n'ont obtenu aucune satisfaction. En Suède, une droite dite morale fait sa percée. Deux nouveaux partis sont parvenus à entrer au Riksdag, le Parlement monocaméral suédois. Les chrétiens démocrates et la Nouvelle Démocratie, un parti populiste de droite. Leur campagne électorale a été faite sur la défense des valeurs familiales. Ils se sont élevés aussi contre les avortements libres et abusifs et ont demandé la suppression des contractuels et la vente d'alcool libre. Les enfants du Pérou. Une enquête du ministère du Travail du Pérou a montré que les enfants de moins de 14 ans représentent 10% de la population active contre 2% seulement au début des années 80. Voilà le progrès. Un écolier sur cinq a quitté l'école pour prendre un job qui permettra d'améliorer les maigres ressources familiales. Dans les campagnes, les enfants cueillent le coton ou les feuilles de coca. Dans les villes, ils travaillent comme vendeurs ambulants, cireurs de chaussures, domestiques ouvriers non déclarés, laveurs de voitures, débardeurs, plumeurs de poulets. Bon nombre d'entre eux sont recrutés par les guérilleros du Sentier Lumineux. En Irak, tant d'hommes ont été tués pendant la guerre du Golfe que l'Irak encourage la polygamie, accordant des prêts sans intérêt aux jeunes gens qui prennent pour deuxième épouse une veuve de guerre. Au Japon, les féministes japonaises sont en colère contre un jeu baptisé « déchets humains » lancé sur le marché dans lequel les femmes sont des simples objets sexuels. Dans son édition la plus récente de ce jeu, on voit des jeunes femmes légèrement vêtues qui prennent des poses provocantes. Quant au préambule, aux règles du jeu, il n'est pas triste non plus. On y lit entre autres que l'ère de la femme a fait son apparition et qu'une fois encore, nous devons rétablir le pouvoir mâle et casser le nez des femmes arrogantes. L'entreprise qui a fabriqué ce jeu s'était déjà illustrée il y a 2 ans en produisant une poupée gonflable noire, production qu'elle a dû arrêter à la suite d'accusations de racisme. À propos de ce jeu de cartes, elle s'est déclarée surprise par la réaction des femmes, car selon elle, déchet humain n'est qu'une farce et ne vise pas à être sexiste ou discriminatoire. Ce jeu fait référence aux hommes qui jouent et non aux femmes montrées sur les cartes, a-t-elle déclaré. Harcèlement électronique, puisque de plus en plus de femmes travaillant aujourd'hui dans un secteur traditionnellement masculin se plaignent de harcèlement sexuel, quelques entreprises américaines ont décidé de s'attaquer au problème en régissant des codes de conduite entre les sexes sur leur lieu de travail. Elles éditent des documents qui expliquent les comportements inopportuns et organisent des sessions de jeux de rôle et vont jusqu'à refuser que les murs des locaux soient couverts de posters de femmes nues. Et tout n'est pas dit pour autant. D'autres formes de harcèlement sont, paraît-il, en train de naître aux États-Unis avec le recours aux nouvelles technologies. Les femmes se plaignent maintenant de recevoir des provocations sexuelles par le biais du courrier électronique et de subir des logiciels pornographiques. On n'arrête vraiment pas le progrès. Une crème de beauté interdite. La commission d'éthique publicitaire des Pays-Bas n'a pas du tout apprécié le nouveau spot de la firme L'Oréal au point de lui interdire son passage à la télévision hollandaise. La plainte déposée concerne la crème Contour Regard qui garantit une victoire quotidienne sur le vieillissement et une disparition des cernes. Publicité fausse et trompeuse, accuse la commission. Interdiction formelle pour les écolières de Kinshasa au Zaïre de porter du rouge à lèvres. Elles ne pourront plus non plus se laisser pousser le cheveu, porter le pagne, la jupe, la mini-jupe et les talons hauts. Dès le 2 janvier, elles devront porter l'uniforme. Ultimatum du ministère de l'Éducation qui s'adresse au directeur d'école toujours en vacances après les émeutes qui ont secoué Kinshasa. On aurait pu penser qu'il y a eu d'autres priorités pour Kinshasa et les femmes en particulier. Les grands-mères moldaves sont le fer de lance du mouvement russophone en Moldavie. Elles se sont entre autres assises au travers des voies ferrées, bloquant le passage des trains, s'opposant à la réunification de la Moldavie avec la Roumanie, réunification demandée par les anticommunistes. Aux États-Unis, des manifestants de la cause homosexuelle ont été refoulés à l'entrée du building du gouvernement de l'État de Californie. Peter Wilson à Los Angeles, les manifestants reprochent au gouverneur Wilson d'avoir opposé son veto à un projet de loi sur les droits des homosexuels. « En Suisse, l'organisation des paroles aux actes, qui entendait promouvoir le travail des femmes, dresse un premier bilan. Cette organisation, qui est née en 1986 en Suisse allemande, en 1988 en Suisse romande, présentait hier à Lausanne un premier bilan des actions menées dans les entreprises pour s'attaquer plus particulièrement aux difficultés rencontrées dans la profession et dans l'obligation de concilier vie familiale et vie professionnelle et dans la mise en valeur de qualités dites féminines. Un programme qui s'inscrit aujourd'hui dans un contexte économique plus que morose, puisqu'on peut rappeler que presque 40% des chômeurs complets recensés en 1991 sont des femmes et que le chômage des femmes augmente plus vite que celui des hommes. En Suisse, plus de 70 entreprises suisses ont donc répondu présent à l'appel lancé au milieu économique de mieux intégrer les femmes dans toutes les branches et dans toutes les carrières. Des réponses qui vont de l'introduction du temps partiel, la mise en place de plans de formation, des programmes d'égalisation des salaires pour des fonctions d'égale valeur ou encore la fixation de quotas à l'embauche. Parmi les exemples cités, l'ouverture d'une crèche par la SBS, la Société de Banque Suisse à Genève. Quant à Nestlé, elle a préféré financer une pouponnière accessible également aux autres femmes du quartier. Crédit Suisse a introduit l'horaire souple pour les hommes et les femmes et la municipalité de Lausanne a systématiquement féminisé ses offres d'emploi. Reste que le chemin vers l'égalité des chances sur le marché de l'emploi sera long et ardu pour les femmes. En Suisse, les femmes ne représentent qu'un tiers de la population active. Dans d'autres pays comme la France ou la Finlande, les trois quarts des femmes travaillent pour la plupart à plein temps. Des femmes à Berne. Les femmes qui ont si brillamment mis sur pied la grève des femmes du 14 juin restent sur la brèche. Leurs comités locaux se lancent aujourd'hui dans la bataille électorale de cet automne afin que le prochain Parlement fédéral compte un nombre nettement plus élevé de femmes qu'à ce jour. Mais elles ont aussi l'intention de réunir le plus possible de femmes, d'abord devant le palais fédéral avant d'entrer dedans à l'occasion d'une manifestation qui se déroulera le 12 octobre. Ce jour-là, de 14h à 17h, les femmes interpelleront l'opinion publique du pays, c'est-à-dire l'ensemble des électrices et des électeurs. Elles y exposeront leurs revendications de femmes pour montrer la nécessité d'une importante présence féminine aux chambres fédérales. Parmi les revendications, bien sûr, une loi sur l'égalité entre hommes et femmes, des rentes AVS indépendantes de l'état civil, interdiction du travail nocturne et dominical pour les femmes dans l'industrie et obligation du deuxième pilier pour les femmes occupées à temps partiel, etc., etc. À Genève, il semblerait que la maternité va enfin faire peau neuve, accoucher d'un nouveau bâtiment. Ce bâtiment, l'ancien, le présent toujours, cette maternité est presque centenaire, c'est le moment d'accoucher, vous direz. Et la rénovation a toujours été repoussée, il y avait toujours d'autres priorités, mais enfin, il semble qu'elle va être rajeunie. Une architecte a été choisie. Pour le faire, il s'agit de Chantal Scaler qui a déclaré « Accoucher n'est pas une maladie, les femmes désirent accoucher dans un cadre gai et coloré, un beau monument, un beau moment qui nécessite une architecture différente de celle des hôpitaux traditionnels ». C'est ce qu'elle a annoncé. Nous nous réjouissons de voir le résultat. Toujours à Genève, vu que le nombre de divorces augmente et que ce fait bien établi pose, paraît-il, de problèmes parfois, a des conséquences parfois funestes, parfois heureuses, mais en tout cas une des conséquences qu'elle a et dont on a rarement parlé, c'est le martyr du macho qui se retrouve seul dans son deux pièces, cuisine, en désordre, avec les reliques du pique-nique, vêtu comme un clochard parce qu'il ne sait pas recoudre ses pantalons, ni d'ailleurs laver avec la machine à laver, il ne l'a jamais utilisé ni repassé. Eh bien, ce pauvre monsieur, ce pauvre individu, eh bien, il va être pris en charge. Et oui, le centre COP Loisirs a mis sur pied un cours de 10 leçons de travail, de travaux ménagers réservés aux hommes exclusivement. C'est un peu court pour assimiler toutes les subtilités du management, mais c'est déjà ça. Allez. La pilule fête ses 30 ans et les experts sont assez contents. Après 30 ans, la médecine se dort vraiment la pilule. Pour les médecins, elle n'est pas toxique. Les risques de cancer du sein sont très faibles. La pilule du troisième âge a même des effets bénéfiques sur d'autres cancers, comme le cancer de l'utérus et des ovaires. Au dernier congrès mondial de gynécologie et d'obstétrique, c'était le consensus autour de la pilule. Ce 13e congrès, qui s'est tenu à Singapour et qui coïncidait avec le 30e anniversaire de la pilule, s'est achevé sur un hymne au bienfait de ce comprimé. Au vu des résultats des grandes enquêtes entreprises voici 10 ans avec la mini-pilule, le consensus est aujourd'hui presque total. Ce bilan est étonnamment positif. Alors que dans le monde, plus de 300 millions de femmes utilisent la pilule, il est aujourd'hui certain que les dangers de la contraception orale sont beaucoup moindres que ceux des avortements souvent réalisés dans des conditions précaires. Même bilan très positif pour les cancers de l'ovaire et de l'utérus ou les grossesses extra-utérines, les troubles des règles, les infections, etc., dont la fréquence diminue avec l'utilisation de la pilule. Quant à la controverse sur le cancer du sein, elle aboutit à un non-lieu. Les résultats suggèrent une légère augmentation des cas chez les femmes jeunes, mais une diminution chez les femmes plus âgées. Sur la fréquence des accidents cardiovasculaires, embolies, thromboses et infarctus, les résultats dépendent étroitement de la pilule prescrite et surtout de la femme qui la prend. Certaines femmes sont à risque et ne doivent pas les prendre. Aujourd'hui, les consignes pour indiquer des pilules se sont bien assouplies. Les médecins en donnent de plus en plus à des femmes de plus de 40 ans, à condition qu'elles ne soient pas fumeuses. Un message qui n'est manifestement pas passé dans le grand public en France, puisque seulement 3% des femmes de plus de 40 ans prennent la pilule. Les seules contre-indications strictes sont les antécédents personnels, milieu familial, accident cardiovasculaire, etc. Un Américain a fait sensation au Congrès en proposant que la pilule soit désormais mise en vente libre sans ordonnance. Ça pose d'ailleurs le problème en France du remboursement, entre autres, de la pilule du troisième type, de la troisième génération, la mini-pilule. Donc, justement, les effets sont beaucoup plus bénéfiques. Elle n'est pour l'instant pas remboursée par la caisse maladie. Or, justement, elle est beaucoup plus chère que les autres, en moyenne, trois fois plus chère que les pilules de la première génération. Les industriels et le ministère et les caisses maladies se renvoient la balle. Résultat de ce bras de fer, seules les pilules de conception plus anciennes sont remboursées et du coup, nombreuses sont les jeunes filles qui disent préférer l'avortement qui lui est complètement remboursé. Autre congrès sur les dépistages du cancer de l'utérus, on a pu montrer quelles sont les précautions à prendre pour que ce dépistage soit le plus efficace possible. On a pu dire ainsi que la date de l'examen a son importance. Et en effet, dans la deuxième partie du cycle menstruel, c'est-à-dire environ 15 jours après les dernières règles, que le frottis donne le plus de renseignements. Il faut aussi faire attention de bien choisir son moment, qu'il n'y ait rien d'autre sur le plan gynécologique, infection, etc., ce qui perturbe également la lecture du prélèvement. Les femmes enfileront bientôt leur propre préservatif Femidom. Premier préservatif féminin sera commercialisé en Suisse au mois de janvier avant le reste de la planète. La crainte d'une maternité non désirée et surtout la peur du sida ont donné une impulsion fantastique à la vente de préservatifs masculins. Mais dans l'opération, ce sont surtout les hommes prudents qui se protègent. Les femmes avisées ou non sont sans défense ou presque, d'où l'idée de créer un préservatif féminin. Premier modèle à être commercialisé, il s'agit d'un caoutchouc cylindrique fin, transparent, d'une vingtaine de centimètres, doté de deux anneaux. L'intérieur se place dans le vagin, l'autre extérieur, entraîné par le pénis lors de la pénétration. L'Association internationale des femmes médecins, qui ont tenu leur assise en Belgique, a écouté avec plaisir la communication d'une doctoresse qui milite pour ce nouveau produit. Ce préservatif a l'avantage de permettre à la femme de le placer bien avant les relations sexuelles. L'utilisatrice n'est pas obligée non plus d'obtenir le consentement de son partenaire, ce qui est capital. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. On a noté entre autres les avis négatifs de la tendance la plus radicale parmi les prostituées à Zurich, pour qui ce diaphragme doté d'un parachute servira avant tout à renforcer le machisme et l'attitude patriarcale de la société. Une conseillère conjugale bernoise ajoute que, je cite, « la responsabilité d'éviter une nouvelle maternité et un nouveau transféré du couple comme tel à la femme seule ». Et les milieux féministes s'indignent de ce que le préservatif féminin va permettre à l'homme de se livrer sans contrainte directe à son bon plaisir. Mais en ce qui concerne le sida, c'est quand même un avantage dans la mesure où ce sont surtout les hommes qui propagent le sida et que les femmes ne pouvaient jusqu'à présent se protéger elles-mêmes. La vraie discrimination est d'ailleurs ailleurs. Le fémidom sera commercialisé. Quand il sera commercialisé, il coûtera 3 francs pièce, c'est-à-dire 3 à 6 fois plus que le préservatif masculin. C'était les nouvelles de la pleine lune 93.8 MHz. Dans quelques instants, notre memento Marjolaine se prépare.